Tant qu'il y aura des femmes, avec Lydia Ketty, votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1. Bonsoir, bienvenue à l'émission Tant qu'il y a des femmes sur Aligre FM 93.1. Je vous reçois comme chaque premier et troisième jeudi du mois. Ce soir, nous recevons Madame Annie Verne et Madame Juliette Sévez. Mesdames, bonsoir.
Bonsoir.
Madame Annie Verne, vous êtes directrice artistique du théâtre Le Guichet Montparnasse, metteur en scène remetteur en scène et comédienne. Madame Juliette Sévez, vous êtes comédienne. Mesdames, vous présentez la pièce Olympe de Gouges, porteuse d'espoir, qui est programmée au théâtre Le Guichet Montparnasse du 9 au septembre au 16 décembre.
Absolument.
Annie, vous êtes la directrice artistique du théâtre Le Guichet Montparnasse depuis combien d'années ?
Oh, depuis très très longtemps. Depuis 1986. Voilà. Donc nous avons créé ce lieu à cette époque-là, sous le nom du Guichet Montparnasse. C'était un petit théâtre avant, qui s'appelait le Théâtrino. En fait, c'était l'ancienne comédie italienne, qui d'ailleurs malheureusement n'existe plus non plus rue de la Gaîté. Mais voilà, donc c'est un théâtre depuis encore plus longtemps, mais sous le nom du Guichet Montparnasse depuis 1986.
Et quand vous dites « nous avons », ça veut dire vous l'avez avec votre mari ?
Oui, oui, je l'ai créé avec mon mari, Alain Véran, absolument. À cette époque-là.
Et vous avez commencé par le conservatoire, vous êtes comédienne aussi, donc vous avez commencé.
Je suis comédienne, vous savez, je suis d'une époque où on se formait un petit peu sur le terrain. Hein. Oui. Donc j'ai pris des cours, en effet, pas par le conservatoire, mais j'ai pris des cours, j'ai fait partie de nombreuses compagnies, j'ai fait pas mal de scènes, et je me suis formée comme ça.
Au pied du mur,
comme on dit.
Et vous êtes autrice aussi, parce que vous avez coécrit avec Claricia Palmer le livre. C'est vous qui avez écrit Olympe de Gouges, porteuse d'histoire, c'est ça ?
Porteuse d'histoire.
D'espoir.
Oui, c'est-à-dire que Claricia Palmer, donc est franco-anglaise, est venue vers moi en me disant Annie, j'ai rencontré une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Olympe de Gouges. Moi, j'avoue, il y a maintenant une quinzaine d'années, j'avoue que je la connaissais très peu, personne ne la connaissait à l'époque.
Très peu de gens.
Oui. Et donc, lorsqu'elle m'a parlé d'elle, j'ai dit, écoute, moi, j'ai entendu parler d'elle, mais je ne la connais pas bien. Donc, elle m'a dit, écoute, j'aimerais que tu lises ses écrits, donc ses pièces de théâtre, ses écrits politiques, beaucoup de productions. Et puis tu me diras ce que tu en penses, parce que moi j'aimerais écrire une pièce sur elle et si j'aimerais bien qu'on la fasse à quatre mains. Et donc j'ai lu. Alors, je suis tombée complètement sous le charme. Enfin, cette femme est extraordinaire. Olympe de Gouges, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Et j'ai dit, mon Dieu, mais absolument, il faut qu'on écrive cette pièce. Donc, Claricia Palmer et moi-même, nous nous sommes mis à la tâche. Et nous avons écrit cette pièce. Alors, Claricia avait soutenu une thèse sur Olympe de Gouges et Malesherbes à Londres. Donc, elle avait déjà tous les écrits. Elle voulait soutenir sa thèse sur Olympe de Gouges, mais pour avoir Malesherbes était quand même le poids qui lui permettait. Voilà. Mais du coup, elle était allée dans toutes les bibliothèques, elle avait récupéré tous les écrits de là.
Bien documenté.
Voilà. Mais donc on avait les écrits. Et moi, j'ai plutôt travaillé sur tout ce qui est l'adaptation, l'idée de réfléchir sur, faire un parallèle entre ce qu'il se passait à l'époque d'Olympe de Gouges au XVIIIe siècle et qu'en est-il de nos jours.
D'aujourd'hui. D'ailleurs, ce livre est écrit en anglais et en français.
Oui, Claricia a traduit le texte en anglais. Et d'ailleurs, Claricia fait un travail phénoménal parce qu'elle est en train de traduire tous les écrits De l'homme de gauche en anglais. On peut les trouver notamment sur notre site, site du Guichet Montparnasse, où les écrits en anglais.
Eh bien, super. Juliette, vous avez commencé par l'École nationale Louis Lumière à la section cinéma.
Oui.
Donc ça, c'était extraordinaire. Vous avez eu envie de faire du cinéma avant le théâtre.
Les deux, mais surtout, je voulais apprendre comment ça se faisait, le cinéma. Et je ne connaissais personne dans ce milieu-là. Et je me suis dit que c'était quand même pas mal d'en connaître la technique. Et j'avoue que maintenant, ça me sert bien aussi quand on dit qu'on fait de l'image, quand un comédien fait de l'image. Ça me donne des petits tips quand même de comprendre pourquoi on me demande ça. Et des choses qui pourraient être des contraintes techniques, finalement, pour un comédien. On sait, au moins, on sait pourquoi il y a ces contraintes. Et ça permet peut-être d'y répondre mieux.
Et Blanche Salan, donc c'était...
Alors, c'est un travail d'apprentissage. Méthode un peu russe, qui vient de là, Stanislavski, qui ensuite d'ailleurs a été, s'est développé aussi aux États-Unis avec le fameux Actor Studio, mais ça part un peu de la même idée de travailler. C'est une grosse boîte à outils dans laquelle on va trouver comment traduire ses émotions, comment aller chercher des sensations, qu'est-ce qu'on en fait, essayer d'intérioriser des choses. Et puis voilà, il y a plein d'outils là-dedans. Il y a le corps, mais pas seulement, il y a aussi. Ce qu'il y a en sous-texte, on travaille beaucoup. Mais maintenant, on va dire que beaucoup d'écoles ont des enseignements similaires, se retrouvent. Je pense que c'est moins compartimenté que ça l'a été à une époque.
Mais Bertrand est une fameuse professeure d'art dramatique. Elle est très connue. Oui. Alors, vous avez fait aussi un stage de clown. J'ai bien aimé cette idée.
Oui.
Alors, je sais que vous n'avez pas fait de... Vous n'avez pas travaillé dans les cirques.
Voilà, ouais, c'est ça. Alors là, ça m'a servi parce qu'il y a un rythme extrêmement... Enfin, particulier, et puis une sincérité dans le clown. Voilà. C'est-à-dire que lui vit des... tragédie quasiment, des drames absolus, et si c'est pas aussi fort que ça pour lui, ça sera paradoxalement beaucoup... Enfin, ça sera pas si drôle pour l'audience, quoi. Voilà, mais alors, de là à devenir clown, certains disent que mais c'est toute une vie pour devenir un clown. Peut-être c'est toute une vie pour retrouver cette enfance et cette innocence, c'est peut-être ça, toute une vie pour ça.
Mais c'est le beau personnage, c'est un beau métier.
Donc il y a encore un peu de temps.
La nostalgie du clown, la tristesse du clown, c'est très beau.
Oui, voilà, c'est à chaque fois assez extrême aussi.
Oui, ouais, complètement. Annie, la pièce Olympe de Gouges, porteuse d'espoir, donc l'adaptation du livre que vous avez coécrit.
C'est le livre, puisque nous avons écrit la pièce. Donc, on est parti tout de suite sur l'écriture de la pièce.
Vous êtes parti tout de suite sur la pièce.
Oui. Donc, Olympe de Gouges, porteuse d'espoir, est la pièce qui est éditée aux éditions de l'Harmattan.
Alors, si on vous pose la question, qui est Olympe de Gouges, vous nous répondez quoi? Qui est cette femme?
Cette femme est probablement la première ou une des premières humanistes. Et quand je dis humaniste, bien sûr, on lui prête le fait d'être féministe. Elle l'est, mais si vous voulez, c'est avant tout une humaniste.
Complètement.
Voilà.
On va voir d'ailleurs tout ce qu'elle a pu faire et tout
absolument.
Ce qu'elle a proposé.
Tout ce qu'elle a demandé, oui.
C'est vrai que le terme n'existait pas à l'époque.
Non, ça n'existait pas.
Mais, et qu'on défend l'idée, nous, en tout cas, que le féminisme, c'est une part
c'est
de l'humanisme.
Absolument, voilà. Parce que quand on parle
de
femmes, on parle
c'est une partie, et donc il n'y a pas à opposer avec le reste.
Non, non, non.
Ça en fait absolument partie.
Exactement.
Tout à fait.
Exactement.
Tout à fait.
Et où sont les archives des écrits d'Olympe de Gouges aujourd'hui?
Alors, on peut les trouver dans pas mal de bibliothèques maintenant. Et puis, il y a des écrits qu'on peut trouver. On peut trouver des livres. On peut trouver des tas de choses sur elle. Beaucoup de personnes maintenant se sont intéressées à elle. Et puis, tant dans le milieu aussi historique. Donc, il y a des historiens qui ont pas mal écrit sur elle. Donc, on trouve ses ouvrages, en tout cas, ses pièces et ses écrits politiques.
Oui, mais ses écrits, c'est-à-dire ses archives, est-ce qu'elles sont quelque part à la bibliothèque ou...
Dans les bibliothèques.
Dans la bibliothèque.
Oui, il faut aller
les archives
fouiner.
De Paris, peut-être.
Oui, dans diverses bibliothèques. Oui.
Donc, vous avez fait la mise en scène de la pièce. C'est vous qui avez mis en scène la pièce.
Oui, absolument, oui.
Donc, voilà. Et Juliette joue un personnage. Alors, quel est le personnage que vous jouez dans la pièce, Juliette?
Alors, moi, j'interprète, j'essaye d'incarner autant que faire se peut, Olympe de Gouges dans la partie historique 18e siècle. C'est-à-dire, d'essayer de la recontextualiser dans le 18e. Donc, voilà, j'ai... Ça, c'est ma partie.
Vous êtes et... Olympe au temps de la Révolution.
Exactement, et un petit peu avant, et au temps de la Révolution, effectivement, parce que là, oui, c'est une, c'est une époque oui, qui va être assez fondamentale pour elle, hein, et puis pour pas mal de gens. Donc voilà, je fais ça, et donc j'interprète, alors pour le coup d'interprétation, ces textes stricto sensu. C'est-à-dire ce qu'elle a écrit, pas, on va dire pas de, de dialogue ajouté, imaginé qu'elle aurait pu avoir avec un tel ou un tel. Ce sont vraiment ses écrits et qu'on a essayé, grâce à la mise en scène d'Annie et de propositions qu'on a eues effectivement aussi sur le plateau, de les rendre vivants. Puisque ce sont des textes qui étaient écrits, qui n'étaient pas normalement destinés à être dits, et surtout à la harangue, parce que c'était pas possible. Quand... C'était déjà difficile pour tout le monde, mais pour les femmes, c'était pas possible.
C'était difficile, oui. Annie, donc, il y a une double incarnation sur la scène de, d'Olympe de Gouges. Donc, vous jouez également Olympe ?
Oui. Alors, moi, je suis une Olympe virtuelle qui arrive dans l'imaginaire d'un homme... qui soutient une thèse sur les droits de la femme, un petit peu poussée par sa femme d'ailleurs, qui trouve qu'il ne s'intéresse pas assez à ce qui se passe à l'heure actuelle, et surtout les diverses questions fondamentales de liberté, etc. Donc il a décidé en effet de soutenir cette thèse sur les droits de la femme, et il part à la recherche donc de cette femme qui était Olympe de Gouges, et des informations pour apprendre à la connaître, et puis arrive dans son imaginaire cette femme qui va un petit peu le prendre en charge comme une maman pour lui expliquer diverses choses, et elle va être celle qui va ouvrir la porte sur le XVIIIe siècle et qui va permettre à ce jeune homme de voir Olympe au XVIIIe siècle à travers le temps et l'espace.
Et alors pourquoi, la question c'est pourquoi avez-vous choisi un garçon pour être étudiant novice, pourquoi pas une fille, parce qu'on pourrait dire que...
Eh bien oui, pourquoi, alors enfin l'idée au départ c'est que...
L'idée excellente, mais...
Oui, bah, alors il y a une raison, oui, effectivement. L'idée c'est que, bon, dans tous les ouvrages, c'est très souvent que ce sont les messieurs qui apprennent la vie aux jeunes femmes. Hein, bon, mais d'accord. Eh bien là, c'est une femme mature d'un certain âge qui va apprendre la vie à un homme plus jeune. Et ça me séduisait beaucoup.
J'imagine. C'est vrai que c'est pas ça, comme certains hommes sait que les égalités existent, mais n'est pas assez informé pour en faire son combat. C'est un peu ça le problème.
Oui, et puis il est
pas critiquer ces messieurs.
Non, mais il est un petit peu... Il se laisse porter par la vie, il n'est pas très engagé.
Oui.
Voilà, il est. Hein, c'est ça.
Il ne l'a pas ressenti. Là, on a l'impression qu'il fait le parcours de ressentir tout ça.
Voilà.
Lui, il le fait sien.
Mais en même temps.
Au bout d'un moment, et pas simplement une idéologie.
Voilà. Complètement. Et en même temps, les spectateurs aussi font le même parcours que lui.
Absolument. Oui, c'est l'idée. C'est vrai que c'est l'idée.
L'idée. Ben oui,
c'est l'idée. Il va, lui aussi, il fait le pont.
Oui, il fait le pont, oui.
Voilà,
lui, il nous représente,
et...
les spectateurs.
Absolument.
Donc, les spectateurs font l'aller-retour entre le 18e et le 21e siècle.
Oui, c'est ça.
Constamment. C'est le but, pour voir ce qu'il reste encore à faire. Et il en reste tant à faire.
Oui, ça me laisse sans voix, parce que oui, il y a beaucoup à faire.
Il y a beaucoup, oui.
Il y a une sorte de temps, comme ça. Oui. Je ne peux qu'abonder dans ton sens. Il y a beaucoup à faire.
Juliette, Marie Gouze est née le 7 mai 1748 à Montauban.
Mmh.
Donc, elle est reconnue par l'épouse de sa mère. Donc,
c'est un enfant légitime, mais il est probable, oui, que qu'elle serait la fille du marquis Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, qui d'ailleurs était auteur lui aussi de textes de théâtre, qui avait leur petite notoriété à l'époque. Mais ça a jamais été elle a jamais été reconnue officiellement, etc. Ça reste.
Off
the record.
Donc très vite, à 17 ans, elle est mariée, elle a très vite un enfant, donc elle épouse Louis. Yves Aubry, c'est ça. Elle donne naissance en 1766 à un enfant qui s'appelle Pierre Aubry. Et très vite aussi, elle quitte sa région pour venir sur Paris.
Donc... Oui, oui. Et puis aussi, son mari décède. Alors, c'est moins de chance pour lui. Enfin, il décède jeune. Ouais. Mais c'est pas mal de chance pour elle parce qu'elle était malheureuse en amour avec lui. Voilà. Et c'est d'ailleurs une des idées qui... Parce qu'elle va se prononcer en faveur du divorce, par exemple.
Oui,
en
exactement.
Disant qu'en fait, à partir du moment... Où... C'est intéressant, sa façon de faire et de penser. À partir du moment où on n'est pas libre de partir... Alors, on ne peut pas considérer qu'aimer et que le mariage est une chose libre. À partir du moment où on peut partir, on est libre de le faire, alors c'est un engagement qui vaut le coup. C'est quand même une façon de penser qui est plutôt originale. Et des façons comme ça, il y en aura beaucoup. Moi, c'est ce que j'aime chez elle. C'est son intelligence pure et vive. C'est-à-dire que, oui, effectivement, elle n'a pas fait de grandes études. Ça, c'est même très... Bon, elle est même vraiment basique de ce côté-là. Mais elle a une... Elle explose d'intelligence et de véritables pensées, en fait. Elle n'a pas des opinions, elle a des pensées. Ce n'est pas si courant.
Ce n'est pas facile, pas facile. D'autant que si on regarde Olympe qui arrive sur Paris, elle est occitane, elle maîtrise mal le français.
Elle a de l'accent.
Elle a cet accent qui est assez fort. Et en fait, femme célibataire, elle assume son indépendance, elle veut rester libre pour assumer ses actes et ses écrits. Donc c'est exceptionnel à l'époque, ça n'existe pas pratiquement.
Oui, surtout qu'en ne jouant pas les courtisanes. C'est pas du tout son... en allant vers les cercles littéraires, parce qu'elle veut s'en approcher... Parce qu'il y a une soif d'apprendre colossale. Elle adore ça. Il faut qu'elle apprenne, qu'elle soit au contact des choses, de la politique, de l'histoire, qu'elle comprenne le monde dans lequel elle est. Et oui, effectivement, elle n'est pas... Oui, ce n'est pas du tout une courtisane. Elle va vivre avec des hommes, mais une liberté et dans une égalité de traitement.
Complètement. Et c'est vrai qu'elle rencontre beaucoup de lettrés, des artistes, des hommes politiques. Elle s'intéresse aux idées nouvelles. Annie, Olympe de Gouges commence ses combats à la fois de femme et de lettres et de femme politique. Ses premières revendications, c'est la lutte contre l'esclavage.
Absolument. Donc, c'est une de ses premières pièces de théâtre qui va être portée d'ailleurs sur la scène par les comédiens du théâtre français. Elle met un homme noir comme héros. Et bien sûr, alors c'est un tohu-bohu de la part des colons qui lui tombent dessus à bras raccourcis et font tout pour que cette pièce s'arrête. C'est-à-dire ils mènent une cabale contre elle et ils vont la siffler au théâtre, enfin, etc. La menace de mort. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Et donc, sa pièce sera arrêtée au bout de 4 représentations. C'est ce qui est terrible pour elle parce que elle voulait vraiment montrer. Enfin, c'était une première idée de montrer. À l'époque, le théâtre était important. Ben, le cinéma n'existait pas. C'était vraiment par le théâtre qu'on pouvait montrer aussi ce qu'on avait à dire. Qu'on pouvait dire des choses. Et elle était tellement offusquée par l'esclavage. Elle voulait tellement que ça s'arrête de traiter les hommes différemment pour une couleur de peau que elle l'avait mis dans ses écrits. Malheureusement, ça n'a pas plu à ces messieurs les colons.
Et oui, absolument. Et cette pièce, en fait, elle a quand même été lue à la Comédie Française. C'est quand même.
Elle a été montée par les comédiens du théâtre français.
Par le français.
Oui, oui.
Mais elle a monté aussi également sa propre troupe, semble-t-il. Moi, j'ai lu ça. Elle a monté sa troupe et que c'était un théâtre itinérant qui se produisait à Paris et dans sa région.
Alors ça, vous savez plus que moi, parce que...
Non, elle a joué, puis d'ailleurs, il semblerait aussi qu'elle ait fait un petit peu jouer son petit garçon, quand il était petit. Mais oui, il y avait...
On n'en a pas beaucoup
mais
parlé,
c'est pas ce qui est resté le plus... Elle n'est pas devenue l'équivalent d'un Molière, mais il y avait une envie comme ça, effectivement. Le théâtre, c'est-à-dire, qui démarre quand même le théâtre, à partir du moment où il y a une audience qui regarde des gens, une personne dire ou faire quelque chose... Ça reste pour moi là quand même, ça reste un des espaces de liberté. C'est de la parole dite en direct, on n'a pas besoin d'être édité, on n'a pas besoin d'être filmé, et Dieu sait si c'est difficile ensuite d'être diffusé par exemple. Non, c'est... Voilà. Donc elle était certainement, oui, dans ce... cette origine-là aussi.
Mais il faut dire qu'elle avait peu d'argent, hein, donc elle ne pouvait pas non plus probablement monter des pièces avec des grands... voilà, elle n'avait pas de moyens. Elle avait très très peu d'argent.
Un peu de musique ?
Elle était vraiment très
démunie. Un peu de musique ?
Avec plaisir.
Ah, alors évidemment, vous avez choisi la programmation musicale. Et là, c'est Juliette qui nous propose Diagara. Assez. Alors, on a entendu assez, et nous sommes toujours sur Allegre FM, 93.1, c'est toujours l'émission Tant qu'il y aura des femmes, et je suis toujours avec Juliette et Annie qui nous présentent le théâtre, une pièce de théâtre qui s'appelle Olympe de Gouges, porteuse d'espoir. Et on vient d'écouter Négara qui était superbe. Et Juliette va nous dire donc son rôle, donc c'est Olympe au XVIIIe siècle, ce qui est la combattante, celle qui prend des risques politiques incommensurables, considérables.
Alors, là, il y a aussi quelque chose chez cette femme, c'est donc, on parlait de sa soif d'apprendre et d'être au cœur de l'événement. C'est-à-dire, maintenant, on pourrait imaginer que cette femme, ce serait une lanceuse d'alerte sur des choses qu'elle remarque. Annie, tu disais blogueuse aussi, mais pas une influenceuse. Hein. On n'est pas dans.
Oui,
dans
c'est ce pas moment-là. Une influenceuse. Oui, oui. C'est elle a rien à vendre.
Lanceuse d'alerte. Elle a rien à vendre, exactement. Ouais. Elle va s'informer. Elle serait même une sorte d'envoyée spéciale d'elle-même. Par exemple, elle monte à Paris, comme on dit, mais à un moment, elle glisse vers Versailles parce que c'est là que des tas de décisions se prennent. Puis elle repart sur Paris. Elle fait et elle déménage à chaque fois pour être au plus près de l'événement, parce qu'effectivement, comment s'informe-t-on ? Et ensuite, elle-même, elle va placarder des sortes de journaux qu'on appelait effectivement d'ailleurs des sortes des placards. Je crois,
des affiches
dans lesquelles elle donnera ses opinions, ses propositions. Et ce qu'on disait, oui, effectivement, aussi un peu pendant la chanson, c'est qu'elle elle savait elle-même qu'elle était bourrée d'idées, que ça partait un peu dans tous les sens. Elle en avait conscience. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on a tant de propositions de sa part.
Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, elle est la seule femme qui s'investit autant en politique et qui suit les débats aussi de l'Assemblée nationale de législative. Oui. Elle suit les débats.
Oui, elle suit les débats. Elle suit les débats et elle a des propositions.
Elle a des propositions extraordinaires.
Qui lui vaudront...
Quelques soucis.
Oui, quelques gros soucis. Définitif comme soucis.
Mais comme à dire. Ouais. Oui. Elle fréquente les clubs révolutionnaires. C'est-à-dire, moi j'aime bien la Société des Amis des Noirs.
Oui.
Et puis il y a aussi une société complètement féminine. Qui s'appelle la Société Patriotique des Amis de la Vérité.
C'est vrai que c'est là, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle a fait sa première proposition de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans cette société-là.
De 16 ans, société.
Parce que c'est vrai que elle est connue pour ça. Maintenant, je crois que les élèves de première apprennent ce texte en cours de français et qui est mis évidemment à chaque fois en regard, article par article, avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je crois que c'est là qu'elle a la première fois qu'elle l'a proposé.
Elle a proposé les choses. Annie, les revendications de Madame Dingourde sont très modernes, en fait. C'est ça qui est incroyable. Elle propose des réformes de mariage, sur le mariage, par exemple.
Bien sûr, elle était absolument pour le divorce, puisque le divorce n'existait pas. Mais elle demandait que les couples se séparent en toute équité. Tant ce n'était pas question que les femmes perdre n'est pas de droit, puisque à cette époque, les femmes souvent, on le dit dans la pièce, étaient malheureusement, certains hommes se comportaient comme leur ennemi ou leur bourreau même, et ils les quittaient sans leur laisser d'argent.
Elles n'avaient pas le choix, de toute façon.
Elles étaient complètement démunies. Alors elle a demandé, bien sûr, dans tout ce travail qu'elle a fait pour défendre les femmes, enfin le statut social des femmes, elle a demandé beaucoup de choses. Elle a aussi demandé des maternités, puisque les femmes accouchaient avec les lépreux tout de même, donc elles mettaient au monde leurs enfants dans des endroits absolument insalubres, qui faisaient que bien beaucoup d'entre elles mouraient, et leurs bébés aussi. Donc elle a demandé ça. Elle a demandé...
Juste ça, par exemple, ça fait partie des fulgurances. Du côté visionnaire de cette femme, elle a fait aucune étude sur le corps humain, tout ça. Enfin, mais elle a des fulgurances comme ça. Je me dis, mais en fait, c'est pas logique de mettre les gens ensemble.
Des enfants avec
elle fait fonctionner une intelligence, voilà. Et c'est de là que vient cette proposition, par exemple.
Donc en fait, elle a demandé beaucoup de réformes pour que les femmes puissent obtenir des droits, puisqu'elles n'en avaient aucun.
Oui, parce qu'en fait, elle dénonce évidemment l'inégalité entre les femmes et les hommes. Elle déplore que les femmes ne participent pas assez à la vie politique du pays.
Une de ses phrases capitales est, vous pouvez le dire, si les femmes ont le droit de monter à la tribune...
À l'échafaud.
Si les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles doivent également avoir le droit de monter à la tribune.
Absolument.
Donc, politiquement, elle demandait ça.
Oui,
elle
c'est
demandait,
important.
Bien sûr.
Elle dit aussi que les femmes naissent naturellement libres et demeurent l'égalité des hommes en droit. Mm-hmm. Parce que ça aussi, c'est
absolument important.
La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle l'adresse à Marie-Antoinette.
Oui, parce qu'elle avait... Elle aimait bien Marie-Antoinette, il faut dire. Elle avait comme ça, elle aurait bien aimé la connaître davantage, faire partie de sa poste. Malheureusement, elle n'avait pas ses entrées dans la royauté. Mais elle l'a adressée à Marie-Antoinette, voilà, qu'elle, parce qu'elle pensait que ça, elle pouvait être aidée d'ailleurs par Marie-Antoinette
elle
et toutes ces femmes de l'époque qui étaient dans les salons littéraires qualité, puisque c'est quand même le siècle des philosophes, et des Lumières. Hein.
On ne peut pas citer toutes, parce qu'il y a 17 revendications. Oui. Alors, Annie, vous allez nous en citer deux, et Juliette va nous en citer une. Alors, un article, c'est des articles. Alors, l'article premier.
Alors, l'article premier, la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Et l'article 10 ?
Alors justement, c'était celui-là qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.
Et l'article 15 ?
La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
C'est extraordinaire déjà. On est... Olympe de Gouges, Juliette, interpelle aussi les femmes. Elle leur dit, alors,
femme,
allez-y.
Réveille-toi, le tocsin de la raison
oui,
se fait entendre dans
femme,
tout l'univers.
Femme, réveille-toi, le tocsin.
Homme, es-tu capable d'être juste ? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ? Ta force, oh, tes talents. Aveugle, boursouflé de science, tu veux commander sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles.
Oui, mais alors, c'est extraordinaire. Voilà, ça, c'est le texte de que vous dites
oui,
dans la pièce.
Oui, et c'est ça, c'est
et
son vrai appel.
Comme vous, voilà, c'est un vrai appel.
C'est un vrai appel.
Et elle dit aussi... les barrières qu'on vous oppose, il faut les franchir.
Ce qu'elle veut dire, c'est qu'effectivement, il y a une chose. Il faut aussi que les femmes se prennent en main là-dessus, considèrent qu'elles-mêmes ont le droit, ont même le devoir de ne pas considérer qu'elles sont inférieures aux hommes. C'est-à-dire, c'est aussi un choix à faire et être ensemble. Ensemble entre femmes, elle invente aussi la sororité, hein, très
oui,
clairement.
Oui,
elle n'est pas du tout dans la concurrence avec les autres femmes.
Absolument.
Elle est dans l'idée qu'on fait ça
de partager,
bien sûr, au nom de la raison et non d'émotions obsolètes.
Annie, en fait, Olympe de Gouges, elle a donné beaucoup d'espoir aux femmes pour l'humanité.
Oui. D'où notre titre, hein, porteuse d'espoir.
Oui, absolument, absolument. Sous la Révolution, et c'est vrai que la Révolution aussi, c'était un moment où les gens, tout le monde avait de l'espoir de changement, éventuellement. On s'est aperçu qu'effectivement, ce n'était pas vraiment ça, mais bon.
C'est-à-dire avant que la terreur n'arrive. Quand la terreur est arrivée,
avant
mon Dieu, c'est devenu...
C'est-à-dire qu'elle était modérée, donc elle s'est rapprochée de cercles politiques, mais on peut dire qu'elle était quand même plus proche des Girondins. Elle n'était pas... Voilà. Ça, c'était... Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit à chaque fois. Tout à l'heure, dans l'article 10, elle dit « Pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi », elle était légaliste. Hein.
Oui.
Ce qu'elle voulait d'ailleurs, c'est que les lois soient promulguées pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Elle voulait vraiment des lois. Donc, à partir de là, elle n'est pas du tout révolutionnaire. En tout cas, elle est tout sauf sanguinaire.
Mmh.
Elle voulait même une abolition de la peine de mort, ce qui est quand même une idée extraordinaire pour l'époque.
Ouais,
et attention, même pour les criminels.
Oui, c'est incroyable, c'est incroyable.
Après, on aurait promulgué des lois. Ouais. Oui, voilà, ça c'est quand même extraordinaire de penser comme ça.
Oui, complètement. Entre 1789 et 1793, les femmes obtiennent, il y a quand même des résultats, certains nombres de droits, mais les révolutionnaires restreignent très vite le corps politique aux seuls hommes et excluent évidemment les femmes du statut de citoyenne. La citoyenne n'existe plus à nouveau, c'est-à-dire, même si la révolution, c'était la révolution, mais pas pour les femmes en fait. Il n'y a pas eu de révolution pour les femmes.
Non.
Dans la pièce, vous constatez, Annie, que la situation a guère changé en fait entre aujourd'hui et le 18e siècle. A changé un peu, mais pas tant que ça.
Alors, bon, il y a encore beaucoup, beaucoup de combats à mener pour que les femmes soient pleinement intégrées dans la société, on le voit bien. Par exemple, la parité, est-ce qu'on en est là à 100% ? Non. On le dénonce aussi encore. Le partage des emplois, les femmes ne gagnent pas la même chose que les hommes. Il y a encore beaucoup à faire, on le sait bien, pour que les femmes trouvent leur place au même titre que les hommes dans notre société actuelle. En tout cas, en ce qui concerne les femmes. Et puis aussi sur d'autres combats, hein, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais pour les femmes, c'est assez flagrant, oui.
Tout à fait. Alors, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que Olympe nous propose, elle préconise une panoplie d'impôts. C'est-à-dire, elle dit, faisons les impôts. Ça, c'est incroyable aussi.
Oui. Oui,
c'est vraiment une femme politique, oui, quelque part.
Effectivement, c'est moins populaire.
Hein, oui, c'est moins populaire. Mais c'est bonne idée qui a été reprise, apparemment.
Bah, elle proposait même que le clergé paie des impôts.
Oui, c'est ça.
Donc,
oui.
Ça, évidemment, ce n'était pas très, très populaire auprès du clergé. Hein, c'est
et
certain.
Les aristocrates. Hein.
Et les aristocrates, en fait, elle disait même que, eh bien, écoutez, c'est simple, on va se faire ça de manière proportionnelle. Donc, plus un riche a de valets, plus il doit payer d'impôts. Ouais. C'était aussi simple et basique que ça. Hein, comme,
oui, c'est sur la taxe sur la fortune, en fait. C'est l'impôt sur la fortune.
Mais elle propose sur les jeux aussi, d'ailleurs, mais sur la fortune, absolument.
Absolument.
Mais exactement. Ouais,
qui a proposé la première, l'impôt sur la fortune, en fait.
Parce qu'elle voyait bien, et déjà à l'époque, les impôts payaient... pesait beaucoup trop lourdement sur les petites gens, sur les paysans.
Bien sûr.
Et à son goût, pas assez.
Il n'y a que les petits gens qui payaient l'impôt, de toute façon.
Oui.
Elle a côtoyé quand même beaucoup de grands hommes, enfin, des grands hommes, qui ont laissé leur nom dans l'histoire de la Révolution. Mirabeau, Robespierre, elle était accompagnée de tous ces gens-là, Marat, Desmoulins. Elle n'était pas d'accord avec eux.
Elle n'était pas d'accord avec eux.
Elle n'était pas avec. Voilà. D'ailleurs.
Et alors surtout quand ils se sont radicalisés, elle était encore moins d'accord.
C'est ça. Quand il y a eu la terreur,
eux.
Elle n'était pas du
non,
tout
non,
d'accord.
Non, parce qu'elle était quand même pour un débat d'idées. C'est-à-dire, on peut se battre avec des idées, mais on n'attaque pas les corps.
Oui, d'ailleurs,
on n'attaque pas les âmes.
Elle a été très attaquée par la Convention nationale. Hein. C'est la Convention nationale avec Robespierre en tête qui l'a amenée à sa perte.
Oui. Bon, c'est vrai qu'elle était un peu dure avec Robespierre, mais je ne sais pas
Mais
finalement, elle n'avait pas raison.
La terreur,
oui,
ça n'a pas été
un
moment...
Oui, elle disait un peu, regardez, le roi est nu, hein, quand même.
Ouais. Elle était féroce.
Elle était féroce.
Oui, complètement.
Ça allait avec cette exaltation dont on parlait, qui est le pendant de toutes ces idées. C'est aussi, effectivement, un caractère, mais on le sait tout à fait extrême.
Complètement. Je me demande si on écoute un peu de musique, parce que le temps passe tellement vite.
Oui, avec plaisir.
C'est Grand Corps Malade, c'est tellement beau.
Ah oui.
C'est le choix de Dani. Et on va écouter Grand Corps Malade qui va nous dire mesdames, qui va parler de nous en fait.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
On va remercier Grand Corps Malade, parce que merci pour cet hommage, Grand Corps Malade. Madame, c'était le choix d'Annie, mais c'est un excellent choix, Annie, vraiment. Ça aurait bien plu à Olympe, je pense. Hein.
Oui, absolument, je pense.
Alors, Madame de Gouze s'est battue sans relâche pour l'égalité des droits, quel que soit le sexe, la religion ou la couleur de la peau. Ça, on parle d'elle depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment, on découvre une femme extraordinaire. On a l'impression qu'elle vient comme
oui,
ça au
milieu.
Oui,
qu'elle ne hiérarchise rien. Oui, c'est
absolument.
Vrai. Oui. L'égalité totale. Et quand on parlait d'ailleurs tout à l'heure des impôts, elle participe elle-même, par exemple. Elle donne un quart de ses revenus. C'est-à-dire, elle joint le geste à la parole. À chaque fois, ce n'est pas juste quelqu'un qui dit « vous ferez comme ci, vous ferez comme ça ». Elle s'engage. Elle s'engage
fédère,
à faire
les
choses. Absolument.
Ouais. Alors, elle est étudiée en première, vous disiez, Annie, je pense.
Oui. Alors là, je suis très heureuse parce que cette femme qui n'a pas pu faire d'études et qui en a souffert, hein, puisqu'elle n'a pas été du tout admise dans les cercles littéraires, etc., parce qu'elle était considérée comme n'ayant pas assez d'éducation, eh bien maintenant elle est en première et elle fait passer le bac aux élèves. Et ça me réjouit parce que je me dis, ça y est, elle a réussi.
Oui, il y a de la reconnaissance. Oui, évidemment, elle en souffrait. Ne pas être connue par son père, sans faire trop de psychologie.
Elle était moquée aussi, elle était moquée.
Oui, il y a un manque de reconnaissance.
On la moquait, on disait que...
Bah, c'est ce côté exalté.
Voilà.
Que ça partait dans tous les sens.
Oui, mais à l'époque, les femmes n'étaient pas vraiment respectées non plus. Elles étaient exagérées, elles étaient évanescentes.
Puis, encore maintenant, elles sont
pas prises au sérieux, en fait.
Quand une femme s'énerve sur quelque chose ou est emportée par des idées, elle est vite hystérique. Elle se déconsidère. Elle déconsidère même les idées qu'elle défend. Enfin, donc, on n'a pas complètement évolué là-dessus.
Oui, c'est vrai. La pièce que j'ai vue, c'était un vrai bonheur. En fait, c'est une pièce qui est une pièce politique, en réalité, que vous proposez.
Oui. Oui.
Ça m'a donné cette impression-là, sachant que ce sont les textes, les vrais textes que vous dites toutes les deux. Cette pièce porte, c'est pas simplement un personnage historique, elle nous met en face de nos responsabilités.
Tout à fait, absolument.
C'est ça qui est intéressant.
Oui, tout à fait. Oui, c'est une pièce qui pose des revendications, et en ça, le théâtre est fait aussi pour ça, pour dénoncer les choses. Et je pense que cette pièce montre bien tout ce qu'il y a encore à régler aujourd'hui au 21e siècle. Il y a encore des sans-abri. Ça aussi, elle demandait à ce qu'il y ait des maisons qui soient fondées pour les personnes qui dormaient dehors. On a eu cet hiver très froid où les gens mouraient dans la rue. Et elle dit, mais ça, c'est pas possible. Il y a des vieillards qui sont là, mais qu'on crée des maisons pour eux. Elle était tout en sensibilité. Et elle demandait ça, mais avec... c'était évident pour
c'était
elle.
C'était évident pour elle.
Avec de l'évidence.
Bien sûr. Ce personnage est incroyable. En plus, elle est ravissante parce qu'il y a des portraits d'elle sur Internet. Il faut aller voir, je vous conseille. Elle est absolument ravissante. Et c'est vrai qu'elle a l'air fragile comme ça, mais cette puissance, cette femme, une telle puissance, c'est un exemple fantastique pour les femmes aujourd'hui.
Elle est sensible, oui.
Elle
est
sensible.
Alors, souvent, on associe la sensibilité à de la fragilité. Moi, ça me paraît une idée reçue. On est sensible, mais c'est peut-être aussi un moteur pour faire des choses derrière, pour en faire quelque chose. Voilà, donc ça, c'est important. Et il y a quelque chose qui me touche aussi chez cette femme, c'est qu'elle part, elle part du particulier au général. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle regarde, elle n'est pas reconnue par son père, elle n'a pas accès à la culture, elle n'a pas, parce qu'elle est une femme, enfin, il y a plein de choses qu'elle constate comme ça. Elle est mariée de force, ça ne lui convient pas, mais plutôt que de simplement rester sur sa propre expérience et en souffrir, elle s'ouvre au monde et elle regarde ce qui se passe. Et elle ouvre, et c'est ça, elle passe du particulier au général, ce qui est très politique. Mais ça, oui, c'est une idée de politique.
Bien sûr, bien sûr. 1793, la terreur. Donc arrivent des moments un peu compliqués.
Oui.
Elle critique Robespierre.
Oui, elle critique Robespierre. Et puis, il y a un problème aussi de timing aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, elle propose 3 urnes. Elle repropose, en fait, qu'il y ait une discussion autour d'un possible pouvoir monarchique, qui serait d'ailleurs pour elle la monarchie constitutionnelle, hein, en fait. Hein, oui. Un petit peu à l'anglaise, enfin, quelque chose comme ça. Et en fait, elle arrive trop tard pour des... Bon, il y a tout un concours de mauvaises circonstances avec le fait que ce journal est édité trop tard après un vote et elle est considérée comme contre-révolutionnaire, ce qui auprès du comité de salut public n'avait pas bonne presse.
Ça fonctionnait pas très bien.
Non, pas très bien, non.
Elle s'opposait aussi à la mort du roi. Elle n'était pas.
Comme Condorcet, personne ne Condorcet d'ailleurs, puisque
elle était contre la peine de mort.
Elle s'est mise, elle a dit, mais que on lui enlève sa charge, bien sûr qu'il n'exerce plus si c'est pas bien ce qu'il le fait, mais qu'on ne le tue pas. Voilà, elle ne voulait pas qu'on tue les gens. Enfin, c'est bien ça. Elle disait, mais voilà.
On peut faire autrement.
Voilà comment on peut laisser mourir des gens. Est-ce que c'est possible de faire ça, de tuer des gens? Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on devrait repenser beaucoup. En France, pour la peine de mort est abolie.
Oui, complètement.
Oui. Et d'ailleurs, juste pour reprendre ça, c'est vrai que depuis le temps qu'on joue cette pièce, on remarque à chaque fois que certains moments de la pièce résonnent avec l'actualité.
Complètement.
Parfois... Oui. J'ai envie de dire presque malheureusement, une grande partie de la pièce. Parfois, ce sont certains sujets. Alors, ça va être l'égalité ou plutôt l'inégalité. Ça va être des problèmes sociaux. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui résonne.
Les choses n'ont pas...
Elle le dit qu'elle était contre le terrorisme et le fanatisme. Oui, elle le dit très clairement, de toute manière.
Avec ce mot-là, terrorisme. Ouais, ouais, ouais.
20 juillet 1793, donc elle est arrêtée parce qu'elle placardait ses affiches. Donc, elle est arrêtée. Au tribunal, elle est privée d'avocat, elle se défend avec adresse et intelligence, mais elle est condamnée à mort, malheureusement. Elle se déclare enceinte.
Oui.
Mais pareil aussi, l'accusateur public Fouquier-Tinville décide qu'en fait, il n'y a pas de grossesse.
Non, tout à fait.
Parce que si elle était enceinte, éventuellement, on aurait pu suspendre, etc. Bon. Olympe donc monte à l'échafaud avec courage et dignité. Elle s'écrit devant la guillotine.
Ah, je lègue mon cœur à la patrie. Ma probité aux hommes, ils en ont besoin. Mon âme aux femmes, je ne leur fais pas un don d'indifférence. Et pensez à moi, souvenez-vous de l'action que j'ai menée en faveur des femmes.
Elle a 45 ans quand elle est partie. Annie, bien que les femmes soient exclues des affaires de la cité, les révolutionnaires prirent quelques mesures pour améliorer le statut des femmes dans tout ce qui est civil et social. Donc, le
8 avril 1791, l'égalité des droits de succession entre hommes et femmes fut admise. Le divorce, réclamé par Olympe de Gouges, fut instauré le 30 août 1792. Quand même,
oui.
Le 20 septembre 1792, la reconnaissance civile concédée aux femmes lors des lois sur l'état civil fut adoptée.
Mais de telles avancées furent très vite écourtées, car le code civil Napoléon, est promulgué le 21 mars 1804, rétablit bientôt le plein pouvoir du chef de famille.
Absolument.
Avec les femmes à nouveau... se retrouve...
Dans la galère.
À passer de l'autorité du père à l'autorité du mari. Oui,
absolument. Voilà. Seul le divorce va échapper à ce retour en arrière. Il sera supprimé en 1716 quand même, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est trop beau. Annie, vous êtes la directrice donc, du théâtre... Parlons un petit peu de la pièce aujourd'hui. Vous êtes la directrice du théâtre Le Guichet Montparnasse depuis 1985,
m'avez-vous
dit. Oui. Le théâtre, c'est votre passion, le théâtre.
Ah ben oui, mais bien sûr, c'est ce qu'on dit, c'est un métier passion, tout à fait. Ah ben oui, mais oui, enfin brûler les planches, voilà, c'est que dire de plus, c'est passionnel.
On va dire aussi qu'au théâtre, vous proposez des ateliers pour
nous faisons aussi de la formation, en effet. Il y a plusieurs cours de théâtre pour les adultes et puis pour les ados aussi.
Tout à fait. Et les ateliers, les spectacles sont joués en public après?
Ah oui, oui, oui. Il y a des représentations pour le public à la fin de la formation. Parce que il y a une pièce est créée pour chaque atelier et il y a 8 représentations à la fin de l'année pour chaque spectacle.
Juliette, vous avez aussi fait quelque chose, je crois, avec les élèves, vous m'avez dit tout à l'heure.
Oui, ben oui, cette année, enfin l'année scolaire écoulée, effectivement, j'étais venue dans des classes de première pour faire une mini conférence sur Olympe et puis leur donner le goût de ça, parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Oui, ça me paraissait pas mal de le mettre entre guillemets en 3D et puis voilà, de donner un peu de l'exaltation du théâtre et un peu tout ça.
Mais c'est quelque chose que vous pouvez reconduire dans d'autres classes éventuellement si on a besoin.
Oui, pourquoi pas, parce que je pense que
les élèves ou les écoles peuvent
vous
demander.
Oui, ça rend les choses vivantes. Pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Mais complètement. Et puis
vous pouvez intervenir dans les écoles.
Ce qu'on se dit à chaque fois, c'est que si on a touché. Oui. Le cœur, l'âme, la motivation d'un gamin, d'une gamine, mais on est ravis. On passe une sorte de flambeau en quelque
exactement.
Sorte. Oui.
Vous allez nous donner les derniers mots de l'âme de Gouges. Vous allez nous dire...
Ah, enfant de la patrie, vous vengerez ma mort.
Je lègue mon cœur.
Je vous l'avais dit, je lègue mon cœur à la patrie, ma probité aux hommes, mon âme aux femmes, mon désintéressement aux ambitieux, ma philosophie aux persécutés, mon esprit aux fanatiques, ma religion aux athées, ma gaieté franche aux femmes sur le retour, et tous les pauvres débris qui restent d'une fortune honnête à mon héritier naturel, à mon fils.
Oui, parce que c'est vrai qu'elle a eu un fils.
Oui, elle a été donc décapitée le 3 novembre 1793... Elle a été la deuxième femme guillotinée quelques jours après la reine. Elle voulait s'en rapprocher.
Ouais.
Elle en a été rapprochée, mais pas les meilleures circonstances. Et quelques jours avant Madame Roland, parce que je crois que les élèves en histoire étudient un peu aussi Madame Roland. Ouais. Voilà.
Mais cette femme, en fait, entre 1770 et 1793, a écrit énormément d'ouvrages. Moi, je les ai comptés, j'ai été subjuguée. C'est incroyable. Annie, vous allez nous dire combien d'écrits ?
Oui, alors elle a écrit 31 romans, 31 romans qui comportent aussi ses mémoires, préfaces, écrits, etc. Elle a écrit 43 pièces de théâtre qui sont publiées ou manuscrites et jouées dans différents théâtres. Elle est de plus en plus... sur les planches Notre-Olympe, et 68 pamphlets révolutionnaires, des brochures, placards et des articles de presse. Oui, elle a été très, très productive.
Elle est très productive, absolument. Olympe de Gouges fait une pionnière du féminisme, pas que, d'une incroyable modernité, avec une conscience aiguë des enjeux de l'égalité, une préoccupation permanente de justice, de solidarité, et plus que tout, un infini sens de l'innovation.
C'est super bien résumé. Merci.
Me semble-t-il.
Oui, oui, on alors, peut avoir le texte.
Alors, Olympe de Gouges, à sa place au Panthéon ?
Alors, j'espère. Va... Oui, oui, parce que, deux fois déjà, ça a été décliné par les grandes instances gouvernementales. Mais elle est proposée. Et j'espère qu'elle pourra... y accéder.
Oui.
Voilà.
Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est de conseiller aux auditeurs d'aller voir votre pièce en savoir plus.
En tout cas, nous, on a très envie de le conseiller, bien sûr.
Alors, on va le conseiller.
Mais bien sûr, voilà.
On va même les obliger. Olympe de Gouges, porteuse d'espoir, programmée donc au théâtre Le Guichet Montparnasse du 9 septembre, c'est déjà passé au 16 décembre. Mmh. Donc, il y a vraiment beaucoup de temps pour emmener les enfants, les maris, les frères, les sœurs, tout le monde. Ça permet tout le monde de rencontrer, de se mettre en phase avec ce qu'on vit aujourd'hui, quelque part.
Oui, de toujours faire des ponts, des relations. Oui.
Des relations hommes-femmes, absolument. Alors, madame, je vous remercie parce que c'était encore une fois un moment fabuleux. C'était vraiment très agréable.
Ah ben, merci.
Ouais. Alors, je ne sais pas, vous êtes complètement investie, parce que je vous sens les Olympes, les deux Olympes que vous êtes. Donc,
Oui, en plus, il y a une progression, évidemment, dans la pièce émotionnelle, enfin, dans cette
dans
montée.
Le jeu.
Voilà, les choses deviennent effectivement de plus en plus dangereuses pour elle. Et voilà, on le ressent tout d'un coup. Voilà. Et puis aussi, c'est cette façon qu'on a choisi de s'adresser de plus en plus au public. Je pense ce qu'on espère, c'est l'embarquer avec nous, vraiment, oui, le concerner. En quelque sorte, ouais.
Bien sûr. Au théâtre, Annie, vous avez d'autres programmations qui sont. Vous avez beaucoup de choses, de toute façon, de pièces.
Ah oui. Il y a beaucoup de pièces. Donc, il y a d'autres productions qui sont des productions maison. Hein, donc, on en a trois. Moi-même, j'ai fait deux adaptations de textes de Guy de Maupassant. Donc, La Parure, d'une part. Et puis, je vais reprendre Une Vie. Que j'avais déjà créé aussi de mon passant. Et puis, il y a une autre pièce qui s'appelle Van Gogh, deux frères pour une vie. Oui. Ça aussi, c'est une production maison avec Julien Séchaud et Ghislain Gégère, dont c'est l'anniversaire. Bon anniversaire, Ghislain. et puis, il y a d'autres pièces. Il y a des compagnies qu'on accueille qui présentent des très beaux spectacles. Et j'aurais envie de vous dire que tous les spectacles sont à voir au Guichet Montparnasse.
Sont à voir, absolument. Je suis d'accord avec vous. Et Juliette, donc, après le mois de décembre, vous avez d'autres projets?
Mais je vais retourner au Guichet dans une production hors maison. Mais je reviens quand même au Guichet. Et ce sera un Marivaux.
Ah oui, c'est voilà. Ça. Oui, c'est pour ça que vous aviez le livre tout à l'heure.
Oui,
de Marivaux.
Voilà, c'est un Marivaux.
Super. Et peut-être dans les écoles, vous allez aussi parler de la
Alors ça,
gauche.
Oui, c'est vrai que
ça, c'est possible.
D'être dans la transmission, bien
oui,
sûr.
Oui, complètement.
C'est une forme de juste continuité de la pièce qui est elle-même dans la transmission. Hein.
Oui, parce que c'est aussi l'information. Parce que c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Certaines personnes connaissent Madame de Gauche, mais comme féministe. Mais
oui,
on s'arrête là.
C'est un peu court. Puis en plus, malheureusement, effectivement, féministe, c'est un peu réducteur. Hein.
C'est complètement réducteur, voilà. Absolument. Elle était humaniste, en fait.
Humaniste. Oui.
Merci infiniment, mesdames.
Merci à vous.
Merci aussi à Julien Cherdieu. Mon cher Dieu Julien, nous allons écouter. Merci aux auditeurs, bien entendu. Si vous désirez réagir à l'émission, n'hésitez pas. desfemmes@aligrefm.org. Et là, on va imaginer une autre société. C'est ce que nous propose Annie. Et c'est Lennon qui nous propose donc d'imaginer une autre vie, que les champs des possibles s'ouvrent en fait.
No. brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not. The world.